Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, bienvenue dans l'équipe est sauvage du vendredi. Une équipe est confinée, mais où l'on se remémore les meilleurs moments de l'émission. Du temps où on pouvait encore accueillir des invités en studio. Des invités qui prenaient un plaisir malicieux, parfois sadique, à noter nos journalistes qui se tiraient la bourre pour décrocher la fameuse couronne de chroniqueur du jour. Un tournoi où d'ordinaire l'amour et les bons sentiments n'avaient pas droit de citer, puisque le but de chaque journaliste était de ridiculiser tous les autres. Mais aujourd'hui, ma chère Eva Rock, que je salue au passage.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Toujours confiné dans le studio Coluche.
Ouais.
Pour plus de facilité. Aujourd'hui, Eva, nous allons faire une exception et parler d'amour.
Ah ouais.
Alors, non, pas forcément cet amour physique, bestial et primaire qui vous obsède tant, Eva, mais d'amour avec un grand A. Oui, pour illustrer l'amour avec un grand A, j'ai demandé Carmen, car je sais, Eva, que vous adorez viser. Elle n'est pas nouvelle, mais elle permet de planter le décor. Car, quelles que soient les époques, l'amour semble toujours fonctionner selon la cruelle équation « Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis ».
Dites-moi au moins quand je vous reverrai.
Bientôt, peut-être.
Oh, pariez grand, vous savez.
Pariez tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour.
Émouvant échange entre Eva et son amant dans les ruelles de Montmartre aux alentours de 1946. Et si nous avons décidé de parler d'amour cet après-midi, c'est que nous recevons un grand écrivain qui lui consacre son dernier roman. Un roman d'amour tous les 10 ans, c'est le rythme qu'il s'était fixé. Bonjour Eric Orsenna.
Mais bonjour Europe.
Alors, bonjour Europe. Je peste souvent, on en parlait en antenne à l'instant, je peste souvent contre la fadeur des titres de romans ou des films ces dernières années, qui je trouve souvent manque d'originalité ou de poésie. Là, briser en nous la mer gelée, pam. Ça, c'est un titre de roman. On n'a pas ouvert le livre qu'on l'aime déjà.
Ben oui, mais je l'ai piqué.
Ne le dites pas.
Mais si,
ne le dites pas.
Europe, c'est le lieu de la franchise.
C'est vrai.
Donc je suis dans la franchise. Donc je l'ai piqué à Franz Kafka.
C'est pas mal.
Qui disait
référence.
Qu'est-ce qu'un livre ? Un livre doit être une hache pour briser en nous la mer gelée. Et depuis très longtemps, je vivais avec cette phrase incroyable et je me disais. Quelle histoire va mériter d'être sous ce titre ? Et voilà. Et donc j'ai trouvé l'histoire qui, à mon sens, mérite d'être sous ce titre admirable. Et au fond, c'est nous. Nous avons tous un peu ou une grande de mer gelée en nous. Donc il faut la faire fondre. Et le réchauffement climatique n'a pas que du mauvais.
On va évidemment parler de ce nouveau roman. Mais d'abord, Eric Orsenna, je vous présente les forces en présence cet après-midi. Puisque vous le savez, ou pas si vous écoutez RMC, ma mission cette saison est de mettre au pas les journalistes d'Europe 1. Croyez-moi, ils en avaient besoin. Leur devise, c'était doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. Il y avait besoin de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, ce que j'ai fait en les mettant en compétition. Chaque après-midi, ils s'affrontent désormais au service de votre culture G. Un seul sera élu chroniqueur du jour. Je vous présente nos deux premiers concurrents. À ma gauche, ne vous fiez pas à ses airs angéliques et son teint radieux, fruit de longs étés passés à respirer l'air vivifiant du Finistère. Anne Le Gall est ce qu'on appelle une bretonne pernicieuse.
Ça, les bretonnes.
Ah oui, ah, on dirait que vous en avez connu une.
Puis en plus, elle va filer la ch'touille.
Oui, non, inutile d'entrer dans le détail. Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour Mathieu, elle bonjour
bretonne.
À tous.
Elle vous êtes bretonne, d'où?
Du Finistère, je suis née, j'ai grandi à Quimper.
Quimper, Lodet, les rives de Lodet.
Absolument, mais évidemment, voilà. Vous connaissez.
Oh là là,
je sens qu'Anne Le Gall a déjà marqué des points avant d'avoir prononcé une seule parole. C'est inouï. Vous êtes notre conscience verte, Anne Le Gall, l'expert environnement d'Europe. Souvent porteuse de mauvaises nouvelles, pas aujourd'hui.
Pas aujourd'hui, puisque je vais vous expliquer que les Français sont de plus en plus prêts à payer plus cher leur voyage. Ils sont prêts à débourser plus pour partir, alors toujours en avion, mais en faisant attention à la pollution de leur vol. Je vais vous expliquer
comment
tout ça.
Comment on fait attention à la pollution de son vol?
C'est du moment où on monte dans un avion. Il y a un nouveau comparateur qu'on peut utiliser sur Internet et je vais vous expliquer.
Ah, parce qu'il y a des avions qui polluent moins que d'autres aussi.
Et oui, absolument.
À ses côtés.
On les appelle des planeurs. Ou alors la montgolfière, vous pouvez choisir la montgolfière qui pollue très très peu.
Tous les conseils voyage d'Eric Orsenna à suivre. À ses côtés, aux côtés d'Anne Le Gall, Eric, un journaliste qui a ce qu'on appelle le sens du teasing. Dès le sommaire, il marque toujours des points, tant sa manière de vendre son sujet est sexy. Preuve encore la dernière fois. Fred Goetti, aujourd'hui vous allez nous permettre de nous la péter dans les dîners en faisant semblant de tout connaître de Jimmy Page.
Eh oui, qu'est-ce qu'il faisait Jimmy Page avant Led Zeppelin? Il était musicien de studio. Alors, c'est quoi un musicien de studio?
C'est un musicien qui joue dans un studio.
Voilà. Oui, bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Est-ce que vous avez mieux aujourd'hui?
Alors c'est un orchestre néo-orléanais qui s'appelle l'Original Dixieland Jazz Band. Nous sommes le 26 février 1917 et ils sont comme nous, en studio, face à un micro et ils ont le track. Ils ont à peine 3 minutes pour enregistrer le premier 78 tours de l'histoire du jazz. Mais il y a d'autres choses qui sont passées en 17.
On va l'entendre
Bien sûr.
Vous avez l'extrait, le premier disque de jazz. formidable, Fred Guatti. Le programme est donné, l'équipe est sauvage spécial Love peut démarrer.
L'équipe est sauvage.
C'est donc Eric Orsenna qui nous accompagne cet après-midi. Alors, je vous précise d'emblée, mon cher Eric, que vu que vous êtes membre de l'Académie française, par mesure de sécurité sémantique, Eva ne sera pas habilitée à vous interroger aujourd'hui. Une écoute rapide de ces dernières questions vous permettra de comprendre pourquoi.
Vous qui aimiez la musique et vous imaginez rocker, vous auriez aimé être quel musicien ?
Voilà, alors, peut-être certains regretteront qu'on ne sache pas si vous auriez aimé être musicien ou si vous rêviez plutôt d'avoir tuté tes ornithologues, mais par sécurité, Eric Orsenna, on a décidé qu'Eva Rock ne vous poserait pas de questions. Brisez en nous la mer gelée. On le disait, vous l'aviez promis, un roman d'amour tous les 10 ans. Mais vous avez sauté celui des 60 ans, si je ne m'abuse. Qu'est-ce qui s'est passé là ?
Ben, il y avait une sorte de vide.
Vous ne ressentiez plus d'amour ou vous viviez au contraire des moments compliqués ?
Non, à la fois les deux. Vous savez, c'est pas contradictoire. On peut avoir du vide et des moments compliqués. Et donc, et puis, il fallait qu'un personnage vienne et puis qu'advienne. Et qu'il fallait saluer ce personnage.
Là, vous nous racontez l'histoire d'amour entre Gabriel, spécialiste des cours d'eau, rien à voir avec un écrivain qui aurait écrit un bouquin sur l'eau il y a quelques années, et Suzanne, spécialiste des chauves-souris. Un homme et une femme d'un certain âge, il la demande en mariage au deuxième rendez-vous, il se marie, mais il divorce 4 ans plus tard. Une histoire pas tout à fait inventée, on peut le dire quand même, Eric Orsenna. Il y a beaucoup de vous dans ce roman.
Il y a beaucoup de moi dans ce roman, il y a beaucoup de vrai, et ce qui m'amuse, c'est que quand vous avez une histoire vraie, elle accueille, elle aimante des tas d'autres histoires qui ne sont pas fausses, mais qui ne vous sont pas arrivées. Donc vous les incarnez vous-même, puisque l'histoire vraie, attirant les autres, c'est comme si on était en bateau, Finistère, et donc c'est un équipage. Et donc on dit, au fond, voilà, qu'est-ce que ça raconte de l'amour ? Et c'est vrai que ce rendez-vous régulier avec un sentiment qui n'est pas complètement négligeable dans une vie, c'est pas mal, je vous assure, parce qu'on dit, au fond, quelle chanson depuis 10 ans m'a vraiment parlé d'amour, quel livre m'a expliqué un tout petit peu, quelle religion m'a parlé d'amour au lieu de haine, quel, etc., etc., quel lieu, etc. Donc, il y a une sorte de rendez-vous, vous avez, vous accueillez comme ça tous ces gens-là, et puis tous ces lieux et toutes ces musiques, et vous dites, ben voilà, ça me raconte l'amour.
Il y a un lieu important, c'est l'Alaska dans ce roman, on va en parler. Eva, vous avez lu ce roman, vous a-t-il réconcilié avec l'amour ? Non mais ça va venir, Eric Orsenna est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, 1917, c'est la naissance du jazz. Et la naissance, cette année-là, de 3 légendes du jazz, Dizzy Gillespie, Duke Ellington et bien sûr Eva, chère à votre cœur, Ella Fitzgerald.
Ça a été ma belle-mère.
Oui, mais n'oubliez pas un petit cachet, Fred Guatti lui nous raconte les incroyables destins croisés de ces 3 génies du jazz, dont donc la belle-mère des baroques. Ce sera juste après Étienne Dao, tombé pour la France sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Étienne Dao s'était tombé pour la France sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Éric Orsenna est avec nous cet après-midi pour évoquer son dernier roman, un roman d'amour. Alors moi je fais tout pour que cette émission soit placée sous le signe de Cupidon, de la tendresse, de la bienveillance. Mais voilà, les journalistes d'Europe 1, eux, s'en foutent de la tendresse et de la bienveillance. Ils sont là pour en découdre. Sera élu tout à l'heure chroniqueur du jour, celui qui aura décroché les 2 points des auditeurs et les 3 points de l'invité. On a vu hier, avec le cruel exemple d'Axel de Tarlé, notre expert économie, dans quel état la défaite pouvait mettre nos journalistes qui deviennent parfois méchants.
Alors, Axel...
Bah quoi ? Non, ça part mal, là.
Axel,
j'aime pas ça.
Vous êtes un gentil garçon.
Non, pas de mais, pas de mais.
C'est quand même pas facile, votre histoire, et puis...
Moi, j'achèterai pas votre livre.
Espérons qu'en fin d'émission, Fred Goati, notre premier concurrent, ne se montre pas aussi mesquin en cadre vert. Fred, vous nous parlez aujourd'hui d'une des plus belles années du jazz, l'année 1917.
Oui, alors nous sommes en 1917, effectivement, les États-Unis ne vont pas tarder à entrer en guerre, mais en attendant que le lieutenant et chef d'orchestre afro-américain James Reese, Europe, ça ne s'invente pas, introduisent le ragtam et le jazz en France en débarquant à Brest au sein du 369e...
On retombe sur la Bretagne.
Oui,
cette émission est bien ficelée. Hein.
D'infanterie qui s'appelait les Harlem Hellfighters. Eh bien, avant donc que tout ça se passe, c'est un orchestre de musiciens blancs de la Nouvelle-Orléans, l'original Dixieland Jazz Band, qui enregistre le 26 février 1917, donc à New York, le tout premier 78 tours de l'histoire du jazz.
La question qu'on se pose, Fadek, pourquoi est-ce que c'est pas un orchestre de musiciens afro-américains
oui.
qui a enregistré le premier disque de l'histoire du jazz ? Ça aurait été quand même un peu normal.
Alors, il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. Il y a évidemment des milliards de raisons socioculturelles. On va pas faire refaire l'histoire des États-Unis, mais il y en a une toute simple. La firme Victor avait proposé à un autre musicien un an avant, un musicien noir, Freddie Keppard, d'enregistrer un disque. Mais il a dit non, je ne veux pas parce que les répétitions n'étaient pas payées. Et il avait peur d'être copié aussi. Parce que mettez-vous à sa place, quand on enregistre, à l'époque, c'était tout nouveau de graver sa musique. On se dit, je vais être copié, tout le monde va piquer mon style. Donc il a dit non. Alors 1917, c'est aussi l'année de naissance de musiciens de jazz extraordinaires. Il y a effectivement Ella Fitzgerald, mais j'aimerais aujourd'hui m'attarder sur deux autres musiciens. Dizzy Gillespie, tout d'abord, l'un des inventeurs au milieu des années 40 d'un style savant, frénétique et révolutionnaire, le bebop.
Alors vous voyez quand même ce jeu de trompette. Quelle année, par exemple ?
C'est le milieu des années 40.
Ah, c'est fou.
Alors vous vous rendez compte, ce solo de trompette extraordinaire, puis ce scat, c'est l'arme de dérision fatale, le scat. Ça a l'air facile comme ça, mais essayez de scatter, vous allez voir.
Faut peut-être expliquer ce que c'est que le scat. Parce
alors
que tout le
scat,
monde le sait
c'est
pas.
Mettre des onomatopées, genre wab, wab, doubi, douba, sur des notes de musique au lieu des paroles. Donc on improvise des. Voilà, comme on peut chanter en franglais, bah non, les Américains, ils chantent en scat. Wab, doubi, je vais pas le faire parce que je sens que je vais être bientôt dans un best-of.
On sent qu'il y a des niveaux.
Moi, j'ai écrit des discours pour les politiques, je vais vous dire que qu'ils squattaient.
Ah oui, c'est un autre style.
Ils squattaient, ils squattaient.
Ouais, oui, bien sûr.
Ils squattaient ma prose et ils squattaient devant.
Mais est-ce qu'ils swingaient? Est-ce qu'ils swingaient?
Pas tous.
C'est hyper intéressant ce que vous dites. Vous avez écrit des discours pour les politiques. Ça doit être horrible quand ils n'arrivent pas à le dire bien ou qu'ils mettent pas les virgules là où il faut ou l'intonation et que vous l'entendez. Vous êtes là, non, c'est pas comme ça qu'il fallait dire. Ça vous arrive, ça vous arrive.
Exactement. Surtout quand ils sont trop longs.
Oui, le rythme n'est pas bon.
Parce que je ne suis pas pour le haïku politique. Mais enfin, au bout de 1h15, on commence à s'embêter. Quand c'est vous qui avez écrit les discours et qui commence à refaire des trucs et tout ça, et tout le monde autour de vous dit « Mais qui a écrit ce discours ?» Alors vous rentrez « C'est pas moi, non, pas du tout,
c'est pas du tout. »
Alors il y a un autre bopper de génie qui est né en 1917, hein, il s'appelle Thelonious Monk. Et le vendredi 4 juin 1954 au matin, au studio du club d'essai de la RTF 37 de l'université à Paris, je sens que Mathieu se dit déjà « Non Fred, va pas entrer dans ce genre de détails ». Excusez-moi, mais moi, hein, je donne des précisions, parce que comme le rappelait notre invité dans son roman « Madame Ba », né au Mali en 1947, les fous de musique africaine, comme les amateurs de jazz, aiment l'accumulation des informations. Alors, lors de son premier séjour parisien, Thelonious Monk a gravé, pour la première fois en piano solo, sa plus célèbre composition, Round Midnight, autour de minuit. Et pour terminer, j'aimerais conclure par une autre version de Round Midnight, chantée par une Américaine d'origine croate, dont les parents avaient quitté notre vieille Europe à cause de la Première Guerre mondiale, 1917. Son vrai nom est Jelena Anna Milsetic, pardon, je ne prononce pas bien le croate. Et comme beaucoup d'immigrants, elle a choisi un nom d'artiste à consonance américaine. Hélène Merrill, Round Midnight, par Hélène Merrill, fête du jazz, pas la guerre.
It begins to tell round midnight. Round midnight. I do pretty well till I.
À chaque fois que Fred Blatty fait une chronique, je ressors et j'ajoute une chanson à ma playlist, ou deux, ou trois. Merci Fred Goetti, du fond du cœur. Et
merci.
Attention, voici mon instant vieux con. On vient d'écouter des trésors du jazz. Est-ce que Eric Orsenna, comme moi, vous avez du mal à savourer la musique d'aujourd'hui? J'ai l'impression qu'il n'y a plus l'évolution qu'il y a eu au XXe siècle. Au XXe siècle, il y a eu le jazz, il y a eu le rock, il y a eu des tels bouleversements par rapport à la musique classique. On a l'impression que depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années, je dirais, on n'entend rien de radicalement nouveau, même dans l'électro. Enfin, ça se fait déjà à la fin des années 90.
Alors, j'ai peut-être ce sentiment-là, mais vous, vous êtes un enfant. Moi, je suis un immortel.
Oui, donc moi, c'est plus grave.
Donc, étant immortel, j'ai le temps que quelque chose de nouveau arrive.
Oui, vous avez tout le temps.
Vous, un peu moins.
Je ne le connaîtrai pas.
Je sens
vrai.
Votre impatience dans tous les domaines de la vie, d'après ce qu'on m'a dit d'ailleurs.
Monsieur est bien informé. Eric Orsenna, passe l'après-midi sur Europe 1.
Car je peux participer à la bataille des chroniqueurs.
Oui, je vois que vous venez quand vous voulez.
Europe 1.
À suivre, qu'est-ce que l'amour? L'amour peut-il renaître de ses cendres? C'est l'objet du nouveau roman d'Eric Orsenna qui est notre invité cet après-midi. L'amour en tout cas peut frapper n'importe où, même dans un studio radio, souvenez-vous.
Ah mais ça me fait tellement plaisir que vous...
Je sais pas, mais c'est... Enfin, je vous raconte la suite dans un instant, à tout de suite.
Ridicule. 16h, 18h, l'équipée sauvage. Sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, rire, découvrir et même aujourd'hui exceptionnellement s'émouvoir. En compagnie de l'écrivain Eric Orsenna qui publie chez Gallimard Briser en nous la mer gelée, un roman qui parle de l'amour avec un grand A. Pas de ces amours fugaces qui rythment la vie des baroques, aussitôt consommés, aussitôt oubliés.
Comment il s'appelait le mec de l'an dernier, non. Le Mexicain?
Vous voulez vraiment que je vous rappelle son nom en présence d'Eric Orsenna? Non. Alors Eric Orsenna, ne tournons pas autour du pot. Est-ce qu'à 70 ans, je vais enfin comprendre quelque chose à l'amour?
La réponse est oui.
On apprend vraiment ou on est toujours un éternel débutant?
Non, on apprend, mais on est tout à fait surpris parce que évidemment, on apprend quelque chose de fugace et puis quelque chose s'en va. Hein, fuir le bonheur avant qu'il ne vous quitte. Et donc, on apprend sans arrêt. Et donc, et tout peut arriver à n'importe quel moment, à n'importe qui.
Et le sentiment amoureux, quand on a passé, disons, 60 ans, il est différent du sentiment amoureux qu'on peut avoir à 20 ans?
Ben, écoutez, quelque chose me dit qu'il est plus riche. Shakespeare dit quelque chose de formidable, c'est que les femmes qui ont pris de l'âge sont plus diverses. parce que évidemment les années sont venues les nourrir. Et moi j'aime bien les traces, vous savez, j'aime bien les rides, j'aime bien les histoires, j'aime bien. Je suis fou d'histoire. Pour moi, quand vous savez, on dit un amour, c'est une histoire. Il a une histoire, il a une nouvelle histoire. Est-ce que c'est une grande histoire? Et donc, plus vous avez vécu, plus vous avez d'histoire. Donc, on peut être bouleversé à tous les âges. On ne sait pas ce qui va se passer.
Même Eva.
Oui, puis c'est marrant ce que vous venez de dire, parce que vous parlez des rides et des sillons que ça peut faire sur le visage. Et je sais que vous aimez beaucoup la cartographie. Ça renvoie quand même à toute cette similitude que vous faites avec les géographies dans votre roman. Est-ce que l'amour, c'est un territoire? À quoi alors, il ressemblerait si c'était un territoire?
L'amour, c'est un royaume. On appelle ça, vous savez, au XVIIe siècle, on appelle ça la carte de tendre. Mmh. La carte de tendre. C'est, et moi, les amours sont toujours liés à des lieux. Et il y a, et c'est pas cette proximité entre le lieu et le lien, ça m'a toujours paru tout à fait évident. Et c'est pour ça que, allant en Alaska, on va peut-être en parler, mais il y a le détroit de Bering. Et le détroit de Bering, j'ai essayé de chercher la définition du mot détroit. Et donc, j'ai été dans Littré, puisqu'il se trouve qu'à l'Académie, je suis au fauteuil de Littré, comme on dit. Et donc, il y a une définition magnifique du mot détroit. Détroit, un bras de mer resserré entre deux continents. Et je me dis, quel autre plus belle définition de l'amour, bras de mer resserré entre deux continents. Parfois, ça s'écarte, et oui. Parfois ça se retrouve, et il y a un courant entre les deux, qui parfois est un courant transversal, et puis qui peut être un courant qui les rapproche. Donc c'est ça l'amour. Donc, vous savez, nous, êtres humains, nous sommes une petite planète. Donc il y a deux planètes qui se rencontrent. Qu'est-ce qui se passe?
Eva, ne tombez pas amoureuse d'Eric Orsenna, s'il vous plaît.
Essayez de vous tenir. Je vois ses paroles, c'est tout.
Autre question que nos auditeurs se posent, la jalousie est-il le signe indubitable de l'amour?
Vous pensez qu'Eric Orsenna est coach love, comme
exactement,
on dit.
Exactement, mais j'espère ressortir de cette émission.
Alors,
avec,
je vais vous dire, quand je vais rentrer avec, devant mes enfants, mes grands-enfants, en disant « Papa, t'es un coach love, s'il ne parle pas comme ça, mais t'es un coach love », alors là, ils vont hurler de rire parce que mon dossier est quand même pas si bon que ça.
C'est vrai? Des râteaux, Eric Orsenna.
Il y a eu des râteaux, absolument. Ah, je suis fort en botanique et notamment en râteaux.
Et en jalousie, vous êtes fort ou pas?
Je suis assez fort en jalousie, c'est vrai. Assez fort en jalousie, mais quand vous avez quelqu'un qui vous dit qu'elle n'est pas jalouse du tout, c'est quand même une sorte de l'indifférence. J'ai un souvenir sur la jalousie merveilleux. J'étais marié et puis cette femme avait rencontré quelqu'un. Et un ami m'a dit, écoute, pour te guérir, je sais que tu es jaloux, et tu as, d'ailleurs, me dit-il, salaud, tu as raison d'être jaloux.
J'ai même des photos.
Genre, oui, j'ai des photos, j'ai des adresses, j'ai des lieux, j'ai des dates, et tout ça. Et dit, un amour de Swann. Et tu verras que tu es nain dans tes inventions de la jalousie. Tu es un petit, tu as rien du tout, tu es un Mickey dans l'invention de la douleur. Donc, lis Proust, tu verras qu'on peut être beaucoup plus malheureux que toi. Donc, fais des progrès en malheur et enfin, tu verras si tu es peut-être un petit écrivain et en tout cas un grand amoureux.
Les leçons d'amour d'Eric Orsenna qui passe l'après-midi sur Europe.
Europe 1.
À suivre, la dernière fois qu'elle avait tenté de nous sensibiliser aux émissions excessives de CO2 face au débonnaire Max Boublil, c'est un euphémisme de dire qu'elle avait échoué.
4 bras zéro allumés plein gaz, c'est l'équivalent d'un trajet en voiture de 350 km.
C'est pas génial comme comparaison. On cherche, c'est ni très étonnant, ni inquiétant, c'est un peu genre rien.
C'était il y a un mois, Anne Le Gall a eu le temps de trouver des exemples plus parlants. Elle revient à la charge avec notre empreinte carbone. Vous y êtes de plus en plus sensible. Selon un sondage, vous seriez même une majorité à être d'accord pour payer plus cher, pour voyager plus responsable. On en parle juste après Axel Red et Icar. I don't care, je m'en moque. Sur Europe.
Lundi midi, toujours au lit.
I don't care, je m'en moque.
Je compte plus mes verres, je compte plus mes clopes.
I don't care, je m'en moque.
On a rendez-vous, mais j'ai pas un sou.
I don't care, je m'en moque.
On prendra l'air à découvert. I don't care, je m'en moque.
I don't care, I don't care.
I don't care, je m'en moque.
Quoi ma génétique, oui j'ai des tocs. And I don't give a fuck.
Je me mets la tête à l'envers.
Je fais mon yoga par terre.
We don't care, on s'en moque. On a la vie qu'on a choisie. And we don't give a fuck.
And we don't, and we don't.
tu te fous en l'air, moi je te fais la guerre. Si t'es folle, moi je m'y colle. I don't care, I don't care. Si tu meurs, tu te fous en l'air, moi tout seul je me perds. Si t'es fou, moi je m'en fous. I don't care, I don't care. Mais si tu te fous en l'air, moi je te fais la guerre. Si t'es folle, moi je m'y colle. I don't care, I don't care. Si tu meurs, tu te fous en l'air, moi tout seul je me perds.
Axel Red et Icar, I don't care, je m'en moque sur Europe 1.
L'équipée sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
L'équipée sauvage spéciale Love continue. Oui, l'amour est partout aujourd'hui dans le studio Coluche, dans le cœur d'Eva qui vient de renvoyer un message à un ami mexicain, dans le regard d'Anne Le Gall qui me fixe lascivement en se disant que l'expression « no job in job » est vraiment un truc de ricain cul serré. Et bien sûr, dans le dernier roman de notre invité, plus qu'un écrivain, Anne, une légende de la littérature française.
Il a côtoyé les monstres marins, les reptiles marins sans se faire croquer.
Oui.
Il a survécu aux différentes extinctions de masse.
Il a survécu aux périodes
glaciaires.
Mais n'exagérez pas non plus, les reptiles marins. Enfin, il a déjà survécu à une amitié avec Mitterrand, c'est déjà pas mal. Pour ce très beau roman qui nous montre que l'amour peut renaître, même au moment où on s'y attend le moins, nous recevons Éric Orsenna. Éric, parlons sans chichi, allons droit au but. Quelle place occupent les femmes dans votre vie? Vous y pensez 2 heures par jour, 3 heures par jour, 6 heures par jour ou 23 heures par jour comme moi?
27. 27. C'est vrai que c'est le sel absolu de la vie. Parce que c'est celle qui nous rend vivants, c'est celle qui nous permet d'explorer. C'est pour ça que moi je meurs d'ennui quand j'ai l'impression que c'est pas réciproque ou qu'on, voyez, qu'on a des sortes de domination. Enfin, rien, jamais. Moi, j'adore la liberté. Je suis fou de la liberté. Donc, vous savez, toutes les femmes, pour moi, sont en fond dépassantes. Donc, même une femme qui a la folie de rester avec moi un certain temps, je me dis, qu'est-ce qui se passe si je trouve pas quelque chose? Elle va s'en aller, elle va s'ennuyer, elle va... Donc, il paraît que je ne suis pas très paisible, mais celles qui me veulent du bien me disent que je suis plutôt intéressant. Donc, quand ça s'arrête, elles sont infiniment soulagées et quelque chose me dit qu'en elles, il y a une petite part qui regrette quand même.
Vous laissez un beau souvenir. Votre roman a une part d'autobiographie, on l'a dit. Est-ce que la personne avec qui vous avez vécu cette histoire d'amour a lu le récit? Est-ce que vous êtes auto-censuré à certains moments?
Alors, je vais vous dire que, ligne après ligne, elle a négocié.
Non. Avec son avocat.
Pas du tout, car elle est pas du tout avocate, mais elle est médecin et une grande intelligence et elle connaît le français au moins aussi bien que moi. Et ça a été ligne après ligne. Et c'était vraiment passionnant parce que figurez-vous, et ça c'est l'âge, bien sûr, vous verrez, ça va vous arriver peut-être dans 50 ans, c'est-à-dire que j'adore avoir tort. Parce qu'avoir raison, ça sert à rien, puisque ça, c'est redondant par rapport à ce qu'on vivait. Alors que, je me dis, et si elle avait raison? Donc j'étais furieux, du comment, mais c'est moi qui écris, je fais 60 livres et tout. Mais qui était là? Ah ben c'était musclé. Et puis je revenais et dis, bah, alors elle me disait pas, parce qu'elle est intelligente, elle me disait, mais elle, un petit sourire, elle voyait, bah tiens, il a changé. Il a changé dans les livres, parce que dans la vie on change pas, mais il a changé dans les livres.
C'est déjà ça. Eh bien cette femme, nous l'avons retrouvée, elle est là. Bonjour Anne Le Gall. Anne, on vous sent très émue. Alors bon, il est là, donc vous pouvez lui dire à cette occasion. Anne, quel est votre écrivain favori?
Herbert Léonard.
Bien. Alors Anne, à part ça, vous allez nous parler de notre empreinte carbone. On est de plus en plus nombreux à nous en soucier au moment de partir en vacances.
On a perdu Éric Orsenna.
Qui s'en fout complètement de l'empreinte carbone. Et je crois qu'il est en train de se projeter avec vous, Anne. Je ne sais pas si ça... Il a eu une vision.
c'est la Bretagne.
L'empreinte carbone. C'est la Bretagne. Visiblement, certains s'y intéressent à l'empreinte carbone. Ça, oui, c'est une bonne chose.
C'est ce qui ressort d'un sondage mené en France pour le site Easy Voyage. 62% des voyageurs se disent prêts à payer leurs vacances plus cher si ça permet de polluer un petit peu moins. C'est une tendance qui est encore plus marquée chez les jeunes, puisque chez les 18-34 ans, c'est les trois quarts des voyageurs qui sont prêts à faire une dépense supplémentaire pour l'environnement.
Mais alors, les Français sont prêts à payer plus cher pour voyager plus vert, mais combien sont-ils prêts à débourser en plus ? C'est toute la question.
Pour la moitié d'entre eux, c'est 100 euros en plus.
Ouais,
et pour,
bon,
les, pour le tiers, c'est même 200. Alors, un petit budget supplémentaire qui servira à quoi ? À faire de la compensation carbone si on prend l'avion, à choisir un mode de transport moins polluant mais peut-être plus cher, ou à choisir un hébergement qui sera par exemple labellisé comme label Clé Verte, label européen ou la chaîne d'hôtels Au Naturel. Alors, ce sont des chiffres, on n'est pas dupes, hein, qui paraissent à l'occasion du lancement d'un comparateur de vol écolo, donc lancé par Easy Voyage. Mais c'est quand même une donnée intéressante parce que l'industrie du tourisme se porte bien, très bien même, puisque chaque seconde dans le monde, il y a 18 personnes qui partent en vacances. Donc, à la fin de ma chronique, il y aura 2000 personnes qui auront bouclé leurs valises et qui partiront en vacances.
Je suis jaloux.
Les voyages représentent 8% des émissions mondiales de CO2 et ça va croître. On parle de la honte de prendre l'avion. Mmh. C'est un phénomène qui est quand même marqué essentiellement en Suède.
Le Flixgam.
Exactement.
Ou le Flixgam,
alors, dans ce pays, c'est vrai qu'il y a entre 3 et 4% du nombre de passagers qui a diminué, mais c'est vraiment une exception. On va quand même vers une croissance du marché de l'aérien. On dit que Airbus va doubler sa flotte d'ici 2040. Donc, savoir que les passagers se préoccupent quand même un petit peu de leur empreinte carbone, c'est intéressant.
Attendez, vous avez une relance que vous m'avez préparée, mais j'ai une question qui me vient, une question technique, tout simplement. Oui. On voit les voitures hybrides, elles émettent, oui, beaucoup moins de... Pourquoi il n'y a pas d'avion hybride, genre moteur thermique? Alors, et hybridation électrique pour un avion?
La recherche travaille effectivement sur des moteurs électriques ou solaires, voilà, qui combineraient les
moteurs
deux.
Moteurs solaires, je ne rentrerai pas là-dedans.
Non,
hein.
Non, mais hybride, évidemment. La question, c'est celle des batteries aussi. Il faut pouvoir les recharger, il faut qu'elles durent dans le temps. Et puis,
et
du poids de l'avion.
Et les recycler. Parce que
l'électrique,
absolument, n'est pas une solution aussi pour l'environnement, c'est un autre débat.
Alors, mais l'industrie travaille.
Justement, comment fonctionne ce comparateur de vol écolo lancé par Easy Voyage?
Alors, vous cherchez un vol, ce comparateur vous donne en plus du prix et de la durée du vol le poids carbone de chaque vol. Donc j'ai pris un exemple, par exemple si on veut partir à New York samedi. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas le vol le plus cher qui est le moins polluant. Là,
d'accord,
on a un exemple, le premier prix c'est 253 euros, mais le poids carbone de ce vol est 25% plus élevé que le poids carbone du vol le moins polluant, qui est en fait un vol direct. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut retenir.
Bah oui, il faut privilégier
les vols
directs.
Il faut prendre des vols sans escale. Il n'y a pas de secret. Alors, en plus, comme les vols sans escale sont les plus rapides, en général, c'est intéressant. Alors, utile ou pas ce comparateur, si on fait preuve de bon sens, on ne sera pas obligé de passer par là. Il suffit vraiment de regarder le nombre d'escales. Et puis, c'est du bon sens. On peut aussi se dire que pour voyager, alors ça ne marche pas à tous les coups, mais il y a aussi le train. Et le train, il faut se souvenir que c'est quand même une empreinte carbone.
Oui, enfin, le train,
10 fois plus faible que celle de l'avion. Et le train, oui, c'est plus lent, mais c'est aussi plus romantique. Ah. Et puis le voyage démarre plus tôt. Il y a même des livres maintenant sur la lenteur du train. Là, j'ai un livre qui s'appelle Slow Train.
Il est formidable.
C'est un livre pour vous inciter à partir en week-end en France en train. Et ça fait rêver.
Alors, merci Anne Le Gall. Éric Orsenna, je suis sûr qu'Anne Le Gall, par sa présence, sa grâce et sa compétence, inspire un mot à l'académicien.
Ah, j'en ai connu des femmes et des séduisantes, mais jamais dotées d'un tel châssis.
Auditrice, auditeur, accrochons-nous car le quiz arrive. Il opposera comme chaque jour Eva Rock à notre invité. Et je préfère vous prévenir, Éric Orsenna. Vous pensez peut-être qu'avoir fait des études de philosophie, de sciences économiques, qu'avoir été le conseiller d'un président de la République et qu'avoir été pris à l'Académie française vous place au-dessus intellectuellement d'Eva. Attention, elle a un message pour vous.
J'ai fait de plus grandes études que Simone de Beauvoir.
Eh oui, tout en s'occupant de sa belle-mère Ella Fitzgerald qui commençait à décliner. A tout de suite.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipée sauvage. Europe 1, 16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire, vous écoutez l'équipée sauvage, ou plutôt aujourd'hui, l'équipée romantique. Puisque nous lisons Les yeux embués de larmes, le dernier roman d'Éric Orsenna, notre invité, Briser en nous la mer gelée. Alors, beaucoup de femmes dans votre vie ont dû avoir envie de briser la glace avec vous, Éric.
Ah ouais ?
Encore aujourd'hui, visiblement. Est-ce qu'un jour, on est guéri de l'amour ? Moi, j'espérais ça. Visiblement, d'après notre discussion depuis le début de l'émission, c'est pas le cas. On ne guérit jamais de l'amour. Il y a pas un jour. Parce que c'est quand même pas enviable comme situation. On ne s'appartient plus quand on est amoureux.
Eh ben, c'est une bonne nouvelle quand on s'ennuie avec soi-même. Quand on est seulement soi-même.
On peut le voir comme ça.
Quand on est seulement soi-même. Vous savez, c'est l'histoire qui m'a tellement frappé et qui est arrivée à un certain nombre de gens, mais notamment à mon père. Mon père était un beau mec. C'est-à-dire, il y a eu un vrai déclin génétique depuis, et c'était un beau mec. Et il avait 86 ans, c'était 2 ans avant sa mort, et j'étais avec lui à une terrasse de café. Et une femme passe, vous savez, comme une passante, comme on dit dans Baudelaire, sous le vent, balançant le feston et l'ourlet, elle passe, il lui sourit, elle répond à son sourire. Et j'entends mon fou de père dire « Ah, si j'avais encore 80 ans
!» Génial.
Ah oui, donc ouais. J'ai adoré mon père, il était là. Mais imaginez le mec à côté, c'est-à-dire moi, qui a déjà 60 balles et dit Mais papa, c'est pas possible. Quoi. Donc il y a peut-être un truc génétique là-dedans.
Alors, tout à l'heure, Éric Orsenna, on connaît votre érudition, vous nous parliez, vous citiez Proust. Vous avez commencé par Tintin, plus modestement.
Mais pas plus modestement, c'est Tintin qui m'a donné envie, clairement, de voir la planète. Puisque nous, on habitait Paris, au coin du Boulevard Pasteur à la Haute-Vaugirard, et puis en allant en Bretagne, c'est là où ma passion absolue pour la Bretagne est née.
Ah, j'ai cru pour Anne Le Gall, d'accord, mais oui. Pour la Bretagne.
Écoutez, on parlera de ça un peu plus tard, parce que je suis entendu.
Ah oui, c'est vrai, vous avez raison.
Et je suis marié. Oui.
Ne chipotez pas.
Ce qui n'est pas contradictoire. On peut être marié et entendu. Il faut dire que d'après les derniers sondages, c'est assez rare d'être à la fois marié et entendu. Mais enfin, on va voir. Et donc voilà.
On parlait de Tintin. Elle, ça serait plutôt la Castafiore. Face à vous, Éric Orsenna, celle qu'en interne on appelle The Brain. Chaque jour, Eva Rock met au défi l'invité de la BAT sur un questionnaire de culture générale. Voici notre célèbre quiz. Vous êtes prête, Eva ?
Non.
Parfait. Éric Orsenna, c'est pas tous les jours que nous recevons dans l'émission un membre de l'Académie française. Par contre, c'est tous les jours qu'à mes côtés, nous avons la présence d'une personne qui a déclaré avoir fait plus d'études que Simone de Beauvoir. C'est pourquoi nous allons à présent faire un duel sur la langue française. Eva Rock, oui. Que désigne l'adjectif nulle part ?
1.
Une femme qui n'a jamais accouché. 2. Une action qui n'a jamais existé, ni même été pensée. Ou 3. Une personne qui s'est mise nue, mais pas assez longtemps pour qu'on puisse se rincer l'œil.
Est-ce que vous avez le droit de vous donner
la réponse ? Non, vous devez choisir parmi
de
ces 3 propositions.
De m'épeler le mot ou pas ?
Nullipare. Nulle part.
J'aurais dit la 2.
Vous auriez dit une action qui n'a jamais existé. Pas du tout. C'est une femme qui n'a jamais accouché, ou en zoologie, une femelle qui n'a pas encore porté. Vous coucherez moins bête.
Ce qui est un mot absolument scandaleux.
Scandaleux, oui, qui devrait être banni.
Mais attends, il va être... Et alors, le problème, c'est qu'on est un peu lent à l'Académie, puisqu'on est à la lettre V. Donc le temps qu'on revienne à N, en dépit de mon immortalité, il y aura au moins 5 personnes qui se seront succédées sur mon fauteuil. Mais dès maintenant, je vais faire une... Voilà, parce qu'il y a les gilets jaunes et il y aura les habits verts qui vont prendre... Vraiment, c'est une honte, nulle part. Mais ça veut dire que si on n'a pas, fait d'enfants, enfin, fabriqué d'enfants, on est nul.
Ouais. Ouais.
Et non avenu. C'est des mots... Il y a des mots qui sont terribles, parce qu'il y a des mots qui vous assignent à résidence, vous condamnent pour toujours.
Bah heureusement, ce mot-là...
C'est une horreur.
Nulle part, on ne l'entend pas souvent.
Mais j'ai droit à un point.
Mais vous n'avez droit à rien du tout.
Éric
Orsenna.
Oui, oui.
Qu'est-ce qu'une fontaine ubérale ? 1. Une fontaine qui n'a jamais cessé de fonctionner. 2. Une fontaine à laquelle on ne peut boire que si on a un compte Uber. Ou 3. Une fontaine où l'eau coule des seins de sculptures féminines.
Alors là, franchement...
Ah, je vous colle !
Mais j'aimerais que vous me la présentiez, surtout, cette fontaine.
Enfin, donc vous avez quelque part donné la réponse. Puisque c'est une fontaine dont les sculptures féminines voient de l'eau jaillir de la pointe des seins. Uber, en latin, mamelle. Vous y penserez quand vous commanderez sur Uber Eats.
Ah, Eva Roche. Merci, merci beaucoup.
Voilà, c'était
merci.
Comme ça. Mais j'aime vous cultiver un petit peu. Je suis là pour ça aussi.
Mais exactement,
forcément.
C'est pour ça. C'est, d'ailleurs, c'est le titre de votre émission.
Mais exactement.
À comprendre, sans oublier.
D'en rire.
Et vous avez vu,
vous avez déjà retenu le slogan de l'émission.
C'est incroyable, Eva la capacité Roque. De mémoire.
Eric Orsena, d'où vient le mot baragouiner? 1. Du fait que quand on a bu, on ne comprend plus ce qu'on dit. 2. Des Bretons, dont le patois était incompréhensible, faut dire ce qui est. Ou 3. D'un établissement réservé aux femmes, ce qui était incompréhensible pour les hommes.
Alors attendez, d'abord je m'insurge, ce n'est pas un patois, c'est une langue. Après, continuez votre émission, s'il vous plaît.
Ah ben moi,
continuez
je dis
votre émission,
2.
S'il vous plaît.
Vous non, dites
attends,
la réponse 2.
Oui.
Et Eric, vous dites aussi la réponse 2. Du coup.
Bah attendez, évidemment.
Oui, parce que vous connaissez la réponse.
Bah,
en fait,
évidemment,
contrairement à Eva qui dit comme vous, parce que bref.
Évidemment.
Et oui, ça vient du breton.
La belle langue bretonne. Nous ne sommes pas nombreux, pas tout nombreux en fait. Nous ne sommes que deux à l'Académie française à aimer les langues, à respecter les langues régionales. Il y a Barbara Cassin qui vient d'être élue, qui a fait un discours absolument magnifique en disant que les langues, c'est la diversité, c'est les langues, c'est pas une seule langue. Et le français n'a pas le monopole pour exprimer le monde.
Alors le breton et baragouiner.
Moi je défends Diwan.
Vous êtes capable de nous dire baragouiner, d'où ça vient, ce que ça veut dire?
Oui, le vin, ouais, bien sûr.
Le pain et le vin.
Et le vin.
Bien sûr, le pain et vin.
Guiner. Voilà.
Ça a donné baragouiner.
Baragouiner.
J'aimais déjà ce mot, je l'aime encore plus.
Vous l'aimez encore plus, ouais, effectivement. Ouais. Eric Orsena, un amélanchier, c'est l'ancêtre de la brosse à chiottes, un très bel arbuste d'Amérique du Nord ou une personne qui n'a jamais voté pour Jean-Luc Mélenchon?
Eh bien, c'est le numéro 2, c'est un très bel petit arbuste qui donne en plein milieu de l'hiver des petites fleurs jaunes qui donnent une sorte d'annonce du printemps.
Et bien, comme quoi, l'Académie française, c'est pas bidon, hein. Ouais. Eva Roque.
Ah bah non, je vais pas jouer là.
Attention, parce que là, on monte en gamme.
Ah bon,
on monte en poésie.
Oui.
On atteint les cimes de la poésie française. Eva Roque, une branlette. Ce n'est pas qu'une pratique solitaire bien connue, c'est aussi une technique de pêche très en mouvement, un ancien ustensile de cuisine pour sécher la salade.
J'ai le droit qu'à 2 possibilités.
Oui, c'est mieux en fait. Moins vous avez de possibilités, plus vous avez de chances de gagner.
Eh bien, je penserais bien à la salade.
Vous penserez. Eh bien, c'est une mauvaise réponse,
évidemment.
C'est une technique de pêche.
Évidemment.
Où l'on donne un mouvement continuel
c'est
à l'amorce de la ligne.
Blague.
Qui n'est pas effectivement, sans rappeler, une autre pratique. Qui remporte ce quiz? Oh, Eric Orsena qui triomphe des Varocs dans un questionnaire portant sur le français. Si on me l'aurait dit, j'aurais pas cru.
Europe 1.
À suivre, vous connaissez peut-être le truculent président du club de rugby de Toulon. Sa stratégie ayant payé pour le rugby.
Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux. Et c'est souvent dans la gueule.
Oui, Mourad Boudjelal s'attaque maintenant au foot. Il veut racheter le club de la ville. Notre correspondant dans le sud nous raconte juste après T-Rex. Quel élan sur Europe. Upon you, you're dirty, sweet, and you're my girl. Get It On, c'était T-Rex sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, l'émission où jadis on aimait à rire, où l'on se permettait de rire fort sans se sentir jugé. Ce temps est révolu puisque visiblement mon rire indispose certaines personnes autour de cette table, certaines personnes qui sont pourtant là parce que j'ai proposé leur nom. Bref, c'est immonde.
Il faut que vous changiez de rire absolument.
Vous savez ce que je vais faire, Eva ? Je vais vous envoyer en stage chez Mourad Boudjelal. Vous connaissez
non,
Mourad Boudjelal ?
Non, non, c'est bon, je sais.
Il va vous remettre d'équerre. Bonjour Frédéric Michel.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant dans le sud-est de la France. Mourad Boudjelal, le président du rugby club toulonnais, pourrait se lancer donc dans un nouveau défi. Passer du ballon ovale au ballon rond. L'emblématique patron du RCT envisage très sérieusement de reprendre le club de foot de sa ville. Le Sporting Club de Toulon, dernier du championnat national, faut-il le préciser ?
Oui, oui, bah c'est bien ça. Hein. J'ai un rêve fou, voir Toulon en Ligue 1. Voilà l'ambition de Mourad Boudjelal, qui ne cache plus son appétit pour le Sporting, le club de football de sa ville. Mais il y a un hic hein, pour le moment. Le propriétaire, l'actionnaire principal, bah, n'est pas vendeur. Mais le patron du RCT, lui, est habitué aux missions insensées et frappe à dingue. C'est lui qui le dit. Et après avoir fait fortune avec une toute petite maison d'édition qui va faire grandir et fructifier. Hein. Je vous rappelle que c'est lui, Rahan, en tout cas l'éditeur hein, de la BD Rahan. Mourad Boudjelal s'impose dans le monde de l'Ovalie avec le succès que l'on connaît aujourd'hui alors qu'il se prépare à quitter le RCT. C'est le foot qui l'attire. Il se souvient, enfant, c'était au milieu des années 70 de Toulon qui s'imposait face à Monaco, à Marseille. Il veut revivre ses soirées magiques et damer le pion à l'OM. Imaginez...
Oui, doucement, doucement Frédéric Michel. C'est vrai que c'est mon club de cœur. Hein.
Imaginez un derby Toulon-Marseille, Mathieu.
Oui, j'imagine très bien.
Car on en est loin encore. Hein. Dernier de national, le Sporting pourrait être relégué à la fin de la saison. Peu importe, Mourad Boudjelal espère trouver un accord avec l'actuel actionnaire et séduire les supporters.
Je vais essayer d'être le plus convaincant possible avec le président, d'avoir l'adhésion des Toulonnais, parce que ce n'est pas une histoire qu'on peut écrire tout seul, mais ça peut être une très belle histoire. Et puis là, je crois que pour tous les Varois, ils sont au début de la première lettre du roman. Donc c'est un roman auquel ils peuvent, dans lequel ils peuvent s'inscrire dès le début.
Et à Toulon, Frédéric, on en pense quoi en fait de ça ?
Bah, Toulon, évidemment, ça fait jaser. Alors, Mourad Boudjelal l'a dit, il veut rencontrer les supporters de football. Le maire Hubert Falco, lui, ne veut pas jouer les arbitres, mais l'idée ne lui déplaît pas. Hein, à partir du moment où un terrain d'entente est trouvé, pas question en tout cas pour Mourad Boudjelal de partager le pouvoir. Il veut être seul aux manettes. Cela fait 27 ans que Toulon a quitté l'élite, la Ligue 1, la première division, hein, comme on le disait à votre époque, Mathieu. Et l'emblématique président du RCT, lui, veut aller très vite. Sa communication est d'ailleurs très maligne. Racheter le Sporting, c'est aussi pour se racheter. Il amorce un mea culpa, explique vouloir réparer les dégâts qu'il aurait pu causer en 14 ans d'hégémonie à la tête du RCT et donc sur tous les autres clubs de la ville. Hein, à Toulon, il n'y en avait que pour le rugby. J'étais comme Attila, a-t-il dit. Je me sens donc un peu responsable. Et c'est vrai que Toulon, dans l'élite du football, ça rappellerait des souvenirs. Allez, tiens. Un petit quiz pour toute l'équipe, vous n'êtes pas à 11, mais vous êtes quand même la Dream Team d'Europe 1. Alors, est-ce que vous pouvez me citer des grands footballeurs qui ont joué à Toulon ? Allez, on va voir.
Zidane est passé par Cannes, mais pas par Toulon. Ouais.
Non, mais j'ai aucune idée. Vous qui êtes supporter de l'OM.
Il y a des grands joueurs de l'OM qui sont passés par Toulon ?
Papin ? Non ?
Papin ?
Non.
On va arrêter, donc allez. Cazoni.
Ah bon ?
Ah ouais ?
Mendy, Pardo. Pascal Olmeta.
Non, mais
Pascal Olmeta, gardien historique.
Vous nous apprenez quelque chose, Frédéric Michel.
Et puis Antigana. Non, mais vous me décevez.
Mais écoutez,
on se rattrapera la prochaine fois,
Frédéric. Merci beaucoup pour cet éclairage.
Europe 1.
Quatre journalistes assoiffés de victoire, une seule couronne, telle est l'équation vicieuse de l'équipe est sauvage. Sorte de Koh-Lanta habillé. À la fin, comme disait Denis Brognard, il n'en restera qu'un. Une deuxième heure se profile, toujours en compagnie de notre invité d'honneur, Eric Orsenna, qui, je l'espère, sera moins cassant avec moi que le grand chef Olivier Rollinger hier. Il m'a pas loupé, lui. Mais en fait, il faut que quelqu'un montre ça. Les gens, ils y croient pas, que ça prend pas du temps. Moi, franchement, avant, j'étais un peu sceptique. Ma compagne, elle cuisine tout le temps et en fait, à une vitesse. Enfin, elle fait des trucs. Je lui dis, mais tu vas pas faire ça maintenant pour. Enfin, on est en 15 minutes.
Ouais, ce serait bien que de temps en temps vous le fassiez aussi.
Hein. Ah non, moi j'ai autre chose à foutre. Pas du tout Rollinger. Oui, j'ai autre chose à foutre moi.
16h, 18h. L'équipe est sauvage sur Europe 1.